Chapitre 14. Son fils Victor parti, Madame Chevasse eut tout le loisir de s'occuper de Charles, de la petite Juliette et d'Eugénie. Elle devint l'âme de la cabale qui se montait contre l'étrange trio. Ce monsieur, que tout le monde a cru si convenable, dont on avait guetté le salut au passage, sur lequel on avait demandé des renseignements, qu'on avait été fier d'approcher, ce même monsieur qui avait fait tant d'impression, avait recueilli chez lui la fille de l'assassin, la fille de ses époux buveurs, querelleurs, que tout le quartier haïssait. Ça avait été pourtant sur la recommandation de Madame Bichat que Charles avait demandé à Eugénie de venir habiter chez lui. Aujourd'hui, la concierge répandait le bruit que son locataire hébergeait cette ivrognesse parce qu'elle était un peu simple d'esprit et qu'il pouvait ainsi, en sauvant les apparences, faire d'une fillette sa maîtresse. Mais comme il était difficile de nuire véritablement à Charles Benesteau, c'est vu sur Eugénie qu'on s'acharna. Chaque fois qu'elle sortait, Madame Bichat l'arrêtait au passage et avec mille sourires l'obligeait à entrer dans sa loge. « Qu'est-ce qu'il fait donc toute la journée avec la petite ?» lui demandait alors la concierge. Eugénie avait des réponses naïves qui faisaient éclater de rire les personnes présentes. Il y avait une semaine que Juliette était revenue. Lorsqu'un matin, Madame Chevasse fit irruption comme une folle dans la loge de Madame Bichat. « C'est ignoble ! Il faut prévenir la police !»« Qu'est-ce que vous avez, Madame Chevasse ? On ne pourra plus nous raconter maintenant qu'il lui apprend à lire. Oh, cette fille, mais c'est le vice personnifié ! Vous les avez vus ? Oh, je les ai vus comme je vous vois, Madame Bichat. Ils ne se gênaient même pas. Ils pourraient au moins fermer leurs volets. Mais je vais déposer une plainte. Je ne suis pas obligé d'assister à ces saletés. C'est hier soir que vous les avez vus ? Oui, il s'est approché d'elle, il l'a embrassée. Moi, je vous assure que la petite ne s'est pas défendue. Je les voyais comme je vous vois. Il y avait de la lumière chez eux. Je vais attendre Eugénie ici, Madame Bichat, si cela ne vous dérange pas. » Deux commères parlaient dans la cour, la concierge les appela. L'une faisait l'envie de toute la maison parce que chaisière au bois de Boulogne, et l'autre, toute jeune, était la femme d'un terrassier. « Entrez, Madame Babillot. »« Oh, je peux pas escalader, je suis trop lourde. » La compagne de Madame Babillot, Léa, sauta dans la loge. « Faites le tour, Madame Babillot, si votre mari était là, fort comme il est. »« Ah oui, quel colosse, celui-là. Fort comme il est, il vous suivrait, vous porterez jusqu'ici. » Ah, Madame Bichat nous offre le café, je parie. » Léa, la femme du terrassier, était ce qu'on appelle une belle fille. Très brune, les bras toujours nus, elle semblait dire « Oh, le travail ne me fait pas peur. Voulez-vous que je vous donne un coup de main, Madame Bichat ?» dit-elle à la concierge qui rallumait son feu pour faire chauffer du café sur le ton d'un industriel faisant cadeau d'un objet qu'il fabrique. Le travail ne coûtait rien à Léa. Comme un bien qu'elle lui possédait en surabondance, elle en offrait à tout le monde. Madame Babillot, qui venait de faire le tour, entra dans la loge. Tout le monde s'y tenait avec peine, tant la pièce était encombrée. « Oh, il faudrait un jour que je vous aide à mettre de l'ordre, » dit Léa. Madame Babillot, elle, était moins courageuse. C'était une femme presque aussi grasse que Madame Bichat et qui se déplaçait avec peine. Son mari, le terrassier, lui avait donné une piètre opinion des hommes. Ils étaient tous des alcooliques, des fainéants. On ne comprenait pas qu'ils eussent tous les droits quand tant de femmes leur étaient supérieures. « Ah, mais qu'est-ce qui secoue donc son chiffon à cette heure-ci » demanda Madame Bichat en voyant des flocons de poussière volé dans l'embrasure de la fenêtre. Elle se pencha. « Ah, c'est vous, Madame Cagnot, qui secouez votre chiffon. Vous savez bien que c'est défendu. » Et on entendit une voix grêle crier. « Mais il n'est pas 10 heures. Si vous avez une minute, descendez. » Peu après, Madame Cagnot pénétrait à son tour dans la loge. C'était une petite femme maigre, au teint gris, au visage desséché. « Eh bien, vous savez la nouvelle, Madame Cagnot ?»«
Quelle nouvelle ?»«
Ben, celle qui concerne M. Bénezdeau et la petite. Ils s'embrassent tous les deux, sans se gêner. Et ça n'a rien de paternel, je vous le dis. » De ces cinq femmes, c'était celle qui avait tout provoqué, Madame Chevasse, qui semblait la plus indifférente. « Ah, il y aura donc toujours des gens comme ceux-là, » dit Madame Cagnot. Comme si, au temps de sa jeunesse, elle avait dû se défendre contre des messieurs trop entreprenants. « C'est la petite qui l'a aguichée. Vous pensez bien qu'il ne serait jamais venu à l'idée à ce monsieur de faire la cour à une gamine. Elle a le diable au corps, cette petite. Je dis pas que le monsieur est un saint, mais enfin, il a une excuse, lui. C'est un homme. » Il y avait une demi-heure que la conversation durait sur ce ton, lorsque soudain Madame Bichat fit signe à ses hôtes de se taire. Une femme passait dans le couloir, c'était Eugénie. « Allez la chercher, faites-la venir, » dit Madame Bichat à Léa. Peu après, Eugénie pénétrait dans la loge. Elle connaissait chacune des femmes qui se trouvaient là. En les voyant réunies, elle fut prise de crainte. « Fermez la porte derrière vous, » dit Madame Bichat. Eugénie obéit. Elle portait un panier car elle allait aux provisions. Sa main droite était fermée. On devinait qu'elle tenait précieusement dans sa paume l'argent que son maître lui avait donné. « Asseyez-vous, Eugénie, ne faites pas tant de manières. C'est pas parce que vous travaillez chez M. Bénesto qu'il faut faire la fière. Alors si on vous avait pas appelé, vous ne seriez pas entré. » « Mais j'ai vu que vous n'étiez pas seule, Madame Bichat. J'ai pas voulu vous déranger. »« Alors, est-ce que vous êtes contente de votre place ?»«
Oh oui. »«
On s'ennuie pas, là-haut. »«
Un peu, quelquefois, mais on est si bien. »« Jamais d'observation. »« Monsieur Belletto est toujours content. »« Jamais il ne se plaint. »
Les femmes se regardèrent, comme si les propos d'Eugénie confirmaient ce qu'elles avaient dit. Écoutez, Eugénie, dit Madame Chevasse, vous n'avez pas la prétention, j'espère, de m'apprendre à moi, qui viens de passer 8 jours chez M. Benesto, quel est votre travail.
Je fais le ménage, un peu de cuisine, c'est tout.
Si c'était tout, est-ce que vous croyez que je serais parti? Car si vous avez cette place, n'oubliez pas que c'est parce que je l'ai laissée.
Mais je n'ai rien fait pour l'avoir.
Taisez-vous. Vous n'avez jamais travaillé honnêtement. On n'a qu'à aller voir où vous habitez pour être fixé. Vous avez traîné la misère toute votre vie à cause de votre paresse. Et aujourd'hui que vous êtes vieille, que vous ne pouvez même plus vous présenter quelque part, vous acceptez de jouer les rôles infâmes. Eugénie se mit à trembler, tous ses regards braqués sur elle. La haine qui émanait de ces femmes lui avait brusquement fait perdre son sang-froid. Elle aurait voulu fuir, mais elle n'osait pas. Déjà, Léa s'était approchée. Cette grande fille, pleine de santé, l'effrayait autant qu'un homme rencontrait le soir dans une rue déserte. « Écoutez-nous, Eugénie, il faut que vous choisissiez. En tous les cas, nous vous prévenons que nous vous dénoncerons la police si vous continuez votre sale métier. »«
Le monsieur est si bon, » parvint à dire Eugénie. « Mais il est comme tous les hommes, son plaisir d'abord. »« Mais qu'est-ce que monsieur pensera de moi si je ne reviens plus? Et l'argent que j'ai là, oh, il faut que je le rende. » « Vous n'avez qu'à le garder, Eugénie. Cela sera pour votre peine. »
La pauvre femme ne put rester plus longtemps debout. Elle s'assit sur une malle. Plus personne ne lui parlait. Madame Babillot, ayant fait une remarque favorable à la petite Juliette, tout le monde s'était dressé. Finalement, Eugénie se leva. Elle se rendait bien compte que si elle n'obéissait pas à ce groupe de femmes, elle serait obligée de quitter le quartier. La haine que sa frêle personne soulèverait serait telle qu'elle ne trouverait même plus un boulanger pour lui vendre du pain. Et où irait-elle? Que ferait-elle le jour où M. Benesteau se séparerait d'elle? Ne fallait-il pas qu'elle songeât à son avenir, elle aussi? Chapitre 15. Quand Charles demanda des nouvelles de Jenny à Madame Bichat, celle-ci lui répondit avec hypocrisie: « Comment, Eugénie n'est pas rentrée? Elle, quelle exactitude même, c'est étrange. Je vais aller voir chez elle. Mais donnez-moi son adresse, je vais y aller moi-même. Oh, elle n'a pas d'adresse. Elle habitait derrière moi dans une impasse que vous ne connaissez pas, mais elle est partie depuis longtemps. Elle couche dans des baraquements, dans des wagons de marchandises, aux abattoirs. J'espère qu'il ne manque rien chez vous, parce que, vous savez, avec elle, on n'est jamais certain de retrouver les petites choses auxquelles on tient. Oh, ce n'est pas qu'elle soit malhonnête, sans quoi je ne vous l'aurais pas recommandé, mais quand elle sent qu'on relâche la bride, c'est plus fort qu'elle, elle en profite. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait la remplacer ?» Madame Bichat leva les bras dans un geste qui signifiait qu'elle commençait à avoir assez de cette histoire. « Non, on ne connaît personne. » « Enfin, Madame Bichat, il y a bien dans le quartier une femme qui ne demande qu'à gagner un peu d'argent. »« Oui, mais en faisant ce métier-là, quel métier ?» Oh, vous me comprenez, monsieur Benesteau, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Ce ne serait pas la peine de voir votre instruction. » Charles avait compris. Il préférait ne pas le dire. C'est dommage. Enfin, je vais essayer de m'occuper moi-même de cet enfant. Si je ne peux pas, je la mettrai en pension. En montant chez lui, il dut faire un effort pour ne pas parler à haute voix. Avait-il le droit de se révolter contre la méchanceté humaine? Il n'était pas certain d'être meilleur que les autres. Pour ne pas se tromper, il n'avait qu'à faire ce qu'il croyait être son devoir. À partir de ce jour, il donna tous ses soins à la petite Juliette. Elle s'était peu à peu apprivoisée. Il lui arrivait de rire. Elle allait et venait dans l'appartement. Elle sortait, faisait des courses, et comme Charles lui avait demandé, elle n'adressait la parole à personne. Il y avait plusieurs jours que cette vie durait, et lorsqu'un matin, Madame Sarrazini sortit de l'hôpital et rentra chez elle, la tête encore entourée de pansements. Il y avait seulement un mois, cette femme avait été haïe de tout le monde à cause de ses mœurs faciles. « Oh, quel bonheur de vous revoir !» s'écrièrent M. et Mme Serrurier. La pauvre femme tenait un baluchon à la main. Elle le posa à terre, s'assit, réconfortée par cet accueil. Elle avait bien changé en quelques semaines. Elle était pâle, bouffie, et ses yeux noirs avaient l'éclat que donne la fièvre. Quant au pansement qu'elle portait, il avait dû être fait le matin par une infirmière, car il entourait savamment la tête et la nuque. « Où est Juliette ? » demanda-t-elle. « Là, il y a un monsieur de la maison voisine qui s'est occupé d'elle. Vous n'avez qu'à demander à Madame Bichat le nom de ce monsieur ou à Madame Chevasse. Et votre mari ?»« Oh, ne me parlez pas de lui. Ça fait plaisir de vous revoir, Madame Sarrazini. » Elle ne répondit pas à cette parole aimable. Le mois qu'elle venait de passer à l'hôpital lui avait donné une gravité sombre. « Vous dites que ma fille est à côté ?»« Oui, même, que tout le monde en parle. »« Pourquoi ?»« Ben, elle est chez un monsieur seul. » Ces derniers mots laissèrent Hélène Sarrazini complètement indifférente. Elle prit la clé que lui tendit le vieux concierge, traversa la courette, déposa chez elle son baluchon, puis, sans avoir même jeté un coup d'œil sur son intérieur, alla rejoindre son amant. Ce ne fut que dans la soirée qu'elle se rendit chez Madame Bichat. Celle-ci savait déjà qu'Hélène Sarrazini était revenue. Elle avait prévenu aussitôt Madame Chevas, qui était descendue immédiatement. « Madame Bichat, dit Hélène Sarrazini, il faut que je vous demande le nom du monsieur qui héberge ma fille. « Mais entrez d'abord, dit Madame Chevas, qui s'était levée d'un bond. » Madame Sarrazini avait un profond mépris pour toutes ces femmes. Elle toisa la concierge et Madame Chevas avec hauteur. « Entrez, on va vous le dire, » répéta Madame Chevas avec beaucoup plus de douceur. Hélène Sarrazini obéit, mais avec lenteur, comme l'enfant cédant malgré lui à un ordre. Une fois au milieu de la loge, elle regarda de nouveau les deux femmes, moins durement, mais avec une curiosité cette fois. « Oh, je suis contente de vous voir, madame, » dit Madame Chevas avec une amabilité exagérée, « car j'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Je suis mère, comme vous. » Madame Sarrazini eut un sourire moqueur que personne ne remarqua. « Oui, je suis mère, comme vous. Je sais donc ce que c'est que d'élever les enfants. Moi, madame, j'ai perdu mon mari à la guerre. J'aime mieux cela que de le perdre comme vous venez de perdre le vôtre. « Enfin, ce n'est pas de cela que je veux vous parler. Je veux vous parler de ce monsieur dont vous venez de demander le nom. Eh bien, je serai à votre place, madame. J'irai demander à la police de m'accompagner. Il a voulu me faire sa complice. J'ai refusé avec indignation. Cet homme, oh, si j'étais à votre place, je le giflerais. Sous le couvert de la bonté et de la charité, il fait semblant de s'intéresser à vous. Et au moment où vous y attendez le moins, il vous fait les propositions. Votre fille, qui est une brave petite, a dû disparaître pendant plusieurs jours pour lui échapper. Il était temps, vous rentriez, madame. Sans quoi je me demande dans quel état vous l'auriez retrouvée, votre fille. » Quelques instants plus tard, Hélène Sarrazini sonnait chez Charles Benesto. Il avait vu cette femme qu'une seule fois. Le jour où, étendu sur un grabat, il avait eu l'impression qu'elle allait mourir. Il la reconnut cependant tout de suite, malgré son pansement. Son visage s'éclaira. Chaque jour, Juliette réclamait sa mère. Chaque jour, elle pleurait. Combien grand serait son bonheur en la revoyant ? Entrez, madame, entrez. Quand votre fille saura que vous êtes là, elle va être folle de joie. Hélène Sarrazini regarda Charles d'abord avec méfiance, puis avec sympathie. Cette femme, dont la vie entière s'était écoulée dans la plus sombre misère, jugeait les gens, à quelque milieu qu'ils appartinssent, avec une sûreté extraordinaire et sans attacher la plus petite importance à leur rang. Et c'était cette même femme qui avait été à moitié assommée par un mari ivrogne, qui changeait à chaque instant d'amant et se souciait si peu de son enfant. « Attendez ici, madame, je vais aller chercher Juliette. » Charles lui avait acheté le matin même une histoire de France illustrée. Juliette contemplait les images. Son visage était reposé. Charles s'approcha d'elle, ferma le livre, la regarda dans les yeux. « Ta mère est là !» Le visage souriant de Juliette devint grave. « Maman est là ?» répéta-t-elle sans paraître comprendre ce qu'elle disait. Un instant après, elle était dans les bras de sa mère, ou plutôt contre sa mère, car celle-ci, tout en la caressant distraitement, parlait à M. Benesto. « C'est vous, je crois, que Vincent a été voir. » « Il m'a parlé d'un avocat qui habitait à côté. C'est vous, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, c'est moi. Vous lui avez donné des conseils ?»« Oh, du moment qu'il est venu me consulter, c'était pour me demander des conseils. Je m'en ai donné comme je l'en aurais donné à vous-même, si vous en aviez demandé. »« Ah oui, je comprends. Dans ces conditions, c'était tout à fait naturel. » Elle se leva, fit quelques pas, sans que sa fille, qui la tenait par la taille, la lâchât. « Je vous remercie infiniment, dit-elle, pour tout ce que vous avez fait pour Juliette, et par conséquent pour moi. » Elle se tourna vers l'enfant. « Tu ne remercies pas ?»« Oui, je remercie. »« Mais fais-le en regardant, monsieur. »« Je vous remercie, monsieur. » Charles souriait pour ne pas paraître ému. D'ailleurs, il n'avait aucune raison de l'être. Du moment que Juliette était heureuse, sa tâche était terminée. Vous retournez dans la petite cour? Ben, il le faut bien pour le moment, mais nous n'y resterons pas. J'irai chez mon ami, sans doute. Lui, il habite une maison dont les fenêtres donnent sur la rue. Vous emmènerez Juliette, naturellement. Elle fera ce qu'elle voudra. J'irai avec toi, maman. Il y avait déjà un long instant que Charles cherchait une occasion d'offrir de l'argent à Hélène Sarrazini. Comme elle s'était approchée de la porte, il lui dit « Oh, si vous avez besoin d'argent, dites-le-moi. » Le trouble qu'elle avait montré lorsqu'elle avait remercié M. Benesto de ses bontés n'avait rien été à côté de celui qui se peignait sur son visage. Elle rougit et pâlit tour à tour. Tout ce qu'on avait fait pour sa fille ne comptait plus. Charles Benesto comprit alors pourquoi cette femme l'avait remercié si froidement. Il comprit qu'elle ne lui en avait aucune reconnaissance d'avoir recueilli Juliette, car elle ne concevait pas qu'on pût laisser une enfant livrée à elle-même. Ce que M. Benesto avait fait était naturel, mais ce qui ne l'était pas, c'était qu'il lui offrit de l'argent. « Vous êtes trop bon !» « C'est bien, je n'ai pas d'argent sur moi, mais demain, si vous le permettez, je passerai chez vous. À quelle heure serez-vous là ?» Anne Sarrazini avait le sang à la tête. Elle aurait voulu dire toute sa gratitude à Charles. Elle voyait bien qu'il ne se moquait pas d'elle. Elle comprenait vaguement sur quoi il s'appuyait pour la traiter avec autant d'égards. Elle devinait que personne n'a le droit de se considérer comme supérieur à son semblable. Et au lieu d'avoir la méfiance d'une fille, par exemple, que quelque étudiant se proposerait d'amender, elle s'abandonnait à la douceur de se sentir défendue. « Oh, je ne sais pas, » répondit-elle, sans chercher à se rendre meilleure pour la circonstance, « car je ne couche pas chez moi ce soir. Je rentrerai demain avec Juliette, parce qu'elle ne voudra pas me quitter ce soir. Voulez-vous que je monte chez vous ?» « Oui, c'est cela. Venez demain soir, vers 6 heures. »« Bien. » Ce fut le dernier mot d'Hélène Sarrazini. Elle ouvrit la porte, se retourna pour adresser un sourire à Charles Benesto, et en tenant le bras de sa fille, elle descendit l'escalier.
Chapitre 16. Lorsqu'il fut seul, Charles Benesto se rendit à la cuisine, comme si rien ne s'était passé, et prépara son dîner. Lorsqu'il eut terminé, il retourna dans son bureau et pendant quelques minutes marcha de long en large, les mains derrière le dos. Il était 9 heures du soir. On entendait la TSF des voisins. Il ne faisait pas complètement nuit. C'était l'instant de la journée que Charles préférait. Cette soirée, après tous les petits événements du mois, avait une gravité particulière. La vie, brusquement, avait repris son cours normal. Charles se retrouvait seul, aussi seul qu'il avait été après avoir quitté le boulevard de Clichy. D'habitude, dès qu'il avait un moment de tranquillité, il écrivait. Ce soir-là, il n'en eut pas envie. Il n'était pas triste pour autant. Au contraire, il avait le sentiment que les choses étaient à leur place, et que lui-même, dans son isolement, était plus fort. Le souvenir des gens qu'il avait vus, des conversations qu'il avait tenues, de tous les sentiments plus ou moins beaux qu'il avait fait naître, lui causait un malaise semblable à celui qu'il avait éprouvé tant de fois lorsqu'au jour des harassantes du palais avaient succédé les mondanités du foyer. Aussi, en face de sa fenêtre ouverte, se sentait-il plus pur. Mais il ne tarda pas à se reprocher ce bien-être.
N'était-il pas fait d'un peu d'égoïsme? Il ne fallait pas oublier que ce n'était ni par misanthropie, ni par amour de la solitude qu'il s'était séparé de sa femme, mais pour des raisons beaucoup plus profondes. Le lendemain, Charles Benestos se rendit à sa banque, prit 10 000 francs. Il était si impatient de les donner qu'il ne put attendre le rendez-vous. Vers 4 heures, il les porta à Hélène Sarrazini. Il s'arrêta devant la porte, celle-ci n'avait pas de serrure. On la fermait la nuit avec un cadenas. Il frappa. Hélène n'était pas seule. Son amant, le plombier, et Juliette se trouvaient avec elle. Tous trois étaient en train de mettre de la paille fraîche dans un sac de couchage. L'unique fenêtre était ouverte. Toutes les odeurs de la cour flottaient dans la pièce. « Entrez, entrez !» Charles s'avança. Hélène s'était levée, mais le plombier et Juliette étaient restés accroupis. « Bien, je vous apporte la somme dont je vous ai parlé hier. » Madame Sarrazini n'avait plus son pansement. Charles remarqua qu'elle était jolie. Malheureusement, elle était habillée sans soin. On devinait sous sa robe lâche d'un jaune foncé et sale sa poitrine tombante. Elle avait des bas de coton, jaunes également, criblés de minuscules taches brunes. Elle avait sans doute renversé du café. Elle ne portait pas de ceinture. Ses cheveux lui pendaient sur les yeux. Son seul luxe, il eût mieux valu qu'elle s'en privât, étaient 2 anneaux de la taille d'un bracelet qu'elle portait en guise de boucle d'oreille. « Ah, oh, vous ne m'avez pas oublié, » dit-elle en tendant la tête en avant et en montrant ses dents éclatantes. « Tenez, » dit Charles Benestos en lui donnant une enveloppe. Elle la prit, mais ne l'ouvrit pas. Elle regardait son interlocuteur, la bouche entrouverte, avec une expression interrogative et reconnaissante. Il semblait qu'elle allait parler et elle ne disait rien, comme si elle attendait une réponse. Brusquement, elle ne se contint plus. Elle prit la main de Charles Benestos et la pressa contre ses seins. Ils firent 2 pas, se rapprochèrent de la fenêtre. « Vous êtes un homme extraordinaire !» lui dit-elle en écartant les yeux le plus qu'elle pouvait et en pinçant Charles à 3 reprises. « Oh, surtout ne me dites pas cela !»« Si, si, vous êtes un homme extraordinaire !» Juliette m'a raconté beaucoup de choses. Je vous comprends, je comprends tout. Elle parlait comme une femme ivre. Il n'y a rien à comprendre. Si, 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 il y a beaucoup de choses à comprendre. Je ne suis pas assez instruite pour vous le dire, mais je sais, je vois, je sens. Charles Benestos ne put se défendre contre un certain malaise. Il y avait dans l'exaltation de cette femme comme la volonté de remercier d'une manière originale, d'être digne de tant de générosité. C'était trop visible, cela en devenait gênant. Non, ne parlons plus de moi, je voulais vous demander quelque chose. Vous êtes du Midi, n'est-ce pas? Cette question dut soulager Madame Sarrazini, car elle répondit aussitôt, joyeuse qu'elle était de quitter le terrain des remerciements où elle se sentait maladroite. Mais mon mari est italien, et moi je suis de la Provence. Et pourquoi ne retourneriez-vous pas dans votre pays? Vous achèteriez une petite maison, votre fille grandirait en plein air, se fortifierait. Ce monsieur qui est là vous accompagnerait. Il exercerait son métier là-bas, au lieu de l'exercer rue de Vanves. Oui, j'y ai pensé, répondit Hélène, qui craignait sans doute de décevoir son bienfaiteur. Mais faites-le, vous me feriez un grand plaisir. Je vous donnerai ce qu'il faudra, mais ne restez pas ici. Sur ces mots, Charles Benestos se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. Faites surtout ce que vous désirez. Il avait été pris d'un certain léger remords. Au moment de prendre congé, il s'était aperçu que l'insistance avec laquelle il avait conseillé ce départ avait eu pour cause, non pas l'intérêt d'Hélène et de sa fille, mais le sien propre. Plusieurs fois déjà, il avait pensé qu'il lui serait désagréable de rencontrer cette femme. Elle raconterait partout ce qu'il avait fait, il passerait pour un original. C'était justement ce qu'il redoutait le plus. 5 minutes plus tard, il était rentré chez lui. Après tout, Hélène Sarrazini pouvait bien faire ce qu'elle voulait. Il se réjouissait de lui avoir dit avant de partir. Ne devait-il pas accepter de passer pour un original si c'était nécessaire? Chapitre 17. L'été touchait à sa fin. Déjà les feuillages roussissaient. Il y avait pourtant encore des Parisiens qui partaient en vacances. Charles Benesteau, lorsqu'il passait devant la gare Montparnasse, aimait à les regarder aux prises avec leurs bagages, les porteurs, les chauffeurs, à surprendre le désir qu'avait chacun d'être le mieux placé, le premier arrivé. Cet été passé à Paris ne lui avait pas été favorable. Il avait maigri. Son teint était pâle, le cerne de ses yeux légèrement enflé. Il est vrai que depuis qu'il était venu en aide aux Sarrazini, il avait été en butte à toutes les tracasseries imaginables. Madame Bichat, qui jadis avait tant aimé à bavarder avec lui, ne lui remettait plus les rares lettres à son adresse. Il était obligé de frapper à la porte de la loge pour demander s'il y avait quelque chose. « Mais vous n'avez qu'à regarder dans le casier !» lui répondait-on avec insolence. Quant à Madame Chevars, elle le haïssait. Il la rencontrait souvent dans le quartier. Chaque fois, elle détournait la tête, crachant un peu de salive, en se courbant comme le font les femmes. Pourtant, chaque fois, il la regardait avec l'espoir de rencontrer ses yeux pour lui sourire. Les époux serrurieux, même, quand ils prenaient le frais devant la porte de l'immeuble, assis sur des chaises dont le déménagement avait été l'avènement de l'après-midi, et qu'ils voyaient passer Charles Benesteau, baissaient la tête. Qu'avait-il donc fait pour inspirer tant de haine? Évidemment, il n'avait pas donné à tout le monde ce qu'il avait donné aux Sarrazini. Mais pourquoi ne le traitait-on pas comme un locataire quelconque? Il ne demandait aucun privilège. Au contraire, il ne désirait que passer inaperçu. La lecture prenait aujourd'hui tout son temps. Il s'était imposé quelques exercices quotidiens de mnémotechnie. Il n'avait aucun penchant pour aucune étude, mais il aimait à apprendre et il aurait voulu avoir une bonne mémoire. Un matin, il se réveilla la tête lourde. Il avait lu très tard la veille, puis, dans son lit, il avait écrit plusieurs pages sur un souvenir qui lui tenait au cœur. Non pas celui de son premier amour, mais celui d'une jeune femme mariée qu'il avait aimée sans jamais le lui dire et qui s'en était aperçue. Ce souvenir en avait évoqué d'autres. Il avait revu le grand jeune homme qu'il avait été avant la guerre et s'était attendri sur toutes les ambitions enfantines qu'il avait eues. Il s'était endormi très tard. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce qu'il eût ce matin-là la tête lourde. Il se leva. En ouvrant les volets, il constata que le ciel était gris, sans nuages, semblait-il, comme si, dans la nuit, il avait simplement changé de couleur. Il referma aussitôt la fenêtre, car un vent froid s'était engouffré dans la pièce. À ce moment, il eut un frisson et dut s'asseoir. Quand il fut remis, il alla chercher le 0,5 litre de lait qu'on déposait à sa porte tous les matins, moyennant un supplément de 10 centimes, et il se rendit à la cuisine pour préparer son petit déjeuner. Il n'ouvrait jamais la fenêtre de la cuisine pour ne pas être vu par Madame Chevasse, qui habitait juste en face. Cette cuisine mesurait 1 mètre sur 2. Sur un ancien fourneau à charbon de bois, un réchaud à gaz était posé. Avant de l'allumer, il versa son lait dans une casserole, puis après avoir fait couler quelques gouttes d'eau dans la bouteille, il la rinça. Alors seulement, pour ne pas user de gaz inutilement, il frotta une allumette. Quand le lait eut bouilli, il emplit une tasse, puis recouvrit la casserole d'une assiette. Avec cette tasse et un morceau de pain de la veille, il retourna dans sa chambre. Il rompit le morceau de pain, rassit, en avala une bouchée. Au même moment, un flot de sang jaillit de ses lèvres. Il s'appuya au dossier d'un fauteuil pour ne pas tomber. Il était devenu blanc comme le lait qu'il avait posé sur la table. L'émotion, la peur l'empêchaient de respirer. Il s'essuya le visage, les mains, il frotta le revers de sa robe de chambre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Petit à petit, il se ressaisit. « Bon, c'est ce parasite, murmura-t-il. Ce parasite a dû me déchirer un muscle. Un muscle. Ce mot, combien de fois l'avait-il entendu dans sa famille? Les douleurs que son père avait eues dans les reins, dans le dos, avaient toujours été musculaires. Celles de sa mère, celles de ses amis également. Charles Benestaud but le lait qu'il avait préparé. Il n'y avait plus de traces de cette hémorragie, sinon un goût bizarre qui lui restait au palais. Il avait caché sa serviette tachée de sang. Il s'habilla, il se sentait bien et faible en même temps. Il avait le sentiment qu'il lui serait agréable d'être entouré de soins, comme s'il n'avait eu qu'un simple chaud et froid. Seulement, lorsqu'il fut prêt, parce que peut-être il se sentait plus fort, il osa se regarder dans une glace. Il eut alors l'impression qu'il était gravement malade. Il était exactement le même que la veille, et pourtant, il se voyait comme s'il avait bu, tantôt souriant, tantôt sévère, avec ses sourcils, ses cheveux noirs, moins qu'il ne le croyait. À ce moment-là, il eut une sensation de chatouillement à la poitrine. Il fut pris de terreur. Allait-il cracher de nouveau le sang? Il tourna la tête. Il sentit ses lèvres mouillées, son menton également. Il prit la serviette qu'il avait cachée, fit quelques pas. Et cette fois, il n'avait pas mangé de pain rassis. Un tremblement l'agita des pieds à la tête. Il ne songeait plus à se convaincre qu'il était en bonne santé en restant debout. Il se laissa tomber dans un fauteuil. Il avait fermé les yeux. Il les ouvrit pour ne pas se laisser aller à croire qu'il rêvait. Il avait saigné deux fois, mais un peu moins la seconde. « Mais oui, un peu moins, » murmura-t-il. Une heure s'écoula avant qu'il eût enfin la force de se lever. À chaque instant, il pensait que la veille, il s'était porté parfaitement et qu'aujourd'hui, il était malade. Il mit son bar-dessus, un cache-nez, et sortit. La concierge balayait justement le corridor. « Bonjour, Madame Bichat, » dit Charles Benestaud, en évitant de marcher sur les tas de poussière que la concierge se proposait d'enlever plus tard avec l'appel à charbon. « Faites attention. »« Oui, 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 je fais attention. » La rue de Vanves lui sembla une rue inconnue. Le condamné à mort, gracié et libéré, qui retourne dans le quartier où il a passé son enfance, n'est pas plus ému que Charles ne l'était devant ses maisons, ses magasins, qui la veille encore l'avaient laissé si indifférent. Il lui semblait qu'il marchait dans une ville inconnue, et pourtant tout lui était familier. Rue de la Gaîté, il n'y tint plus, il fallait qu'il vît un docteur. Il fallait qu'il pût dire à quelqu'un ce qui était arrivé. Il est là, un taxi. Un avenue Mozart, dit-il au chauffeur. Tout le long du trajet, il trembla que les secousses de la voiture ne provoquassent une nouvelle hémorragie. Un instant, il avait songé à se faire conduire chez ses frères, mais il s'était juré de ne jamais rien leur demander. Il avait songé également à se rendre au boulevard de Clichy. Non, c'était impossible. Tout Paris aurait su qu'il était malade. Madame Charmécart aimait à faire dire par sa domestique qu'elle était dans son bain. Ce fut en effet la réponse qu'on fit à Charles quand il demanda à la voir. « Oh, dites à madame que je tiens à la voir tout de suite. J'ai quelque chose de très grave à lui annoncer. » Quelques instants après, Madame Charmécart rejoignait Charles. Elle était souriante. « Mais qu'est-ce qui se passe, cher ami ?» En quelques mots, M. Benestaud raconta ce qui venait de lui arriver. Le visage de Mme Charmécart devint grave. Elle regarda Charles comme s'il venait de lui parler des malheurs d'un autre. « Oh, mais il faut voir un médecin tout de suite, » dit-elle. « Vous croyez que c'est vraiment grave ?»« Non, non, cela peut être un peu de fatigue, à moins que ce ne soit, comme vous m'avez dit, ce morceau de pain rassis. Mais quelle idée aussi avez-vous eu de manger du pain rassis ?» Ce n'était pas seulement, comme le croyait Charles lui-même, les circonstances qui l'avaient amené en un moment si tragique chez son ancienne maîtresse, mais le sentiment qu'il trouverait près d'elle plus de réconfort qu'auprès de sa famille. Malgré sa coquetterie, malgré son goût pour les petites soirées entre amis seulement, elle aimait à secourir et à réconforter. Aucune situation n'était désespérée avec elle. Tout danger pouvait être combattu, et ce qui était plus sympathique encore, c'est qu'elle avait conscience du rôle qu'elle jouait, et qu'elle considérait comme de son devoir de sacrifier ses petites occupations s'il le fallait. Ce jour-là, elle devait déjeuner justement avec un administrateur du Châtelet. Elle téléphona de sa chambre pour se décommander. Puis elle pria un de ses amis, le professeur Genevrier, de venir le plus vite possible. « Eh bien, Charles, ne vous laissez pas abattre comme cela, » dit-elle, lorsque, une fois habillée, elle revint au salon. M. Benesto ne répondit pas. Il avait la fièvre. Par moments, il grelottait. « Voyons, vous n'allez pas prendre au tragique un petit accident qui arrive à tout le monde. J'ai téléphoné au docteur, il va arriver dans un instant. Nous allons être tout de suite fixés. » Un quart d'heure plus tard, le docteur Genevrier pénétrait dans la pièce. C'était un grand et bel homme au visage fermé, qui certes ne devait pas réconforter ses malades en leur disant « Mais c'est rien, j'ai eu la même chose que vous. » Charles lui raconta ce qui s'était passé. Le médecin fit une moue, mais il lui répondit qu'il ne pouvait lui ordonner de traitement avant de l'avoir ausculté. Il faudrait que M. Benesto passât au cabinet. Pour le moment, il ne pouvait rien dire. En tous les cas, M. Benesto ne devait pas s'inquiéter. Souvent, ces petites hémorragies n'avaient aucune signification et se produisaient chez des êtres parfaitement sains. Ben, « J'ai mangé un morceau de pain rassis, » dit Charles. Eh, « Justement, vous voyez, cela confirme ce que je viens de vous dire. » Mais dans le hall, dès qu'il fut seul avec Mme Charles-Maycard, il ne lui cacha pas ses inquiétudes. Charles avait certainement une ou plusieurs lésions au poumon. Il faudrait le conduire à la montagne. Seul un air très sec pourrait le sauver. Lorsque Charles voulut se retirer, Madame Charme et Carr l'en empêcha. « Je ne veux pas vous laisser seul. »« Si, si, je vais rentrer. »« Il faut vous soigner. Je vais m'occuper de vous. Je vais vous reconduire. »« Mais non, ce n'est pas la peine. » Avez-vous prévenu votre famille? Oh, je ne la préviendrai jamais. Charles, voyons, quand on a quelque chose, il faut se soigner. Vous connaissez mon amitié. Pour elle, faites-le. Bon, laissez-moi rentrer. En disant ces mots, il se leva. Et tout à coup, il pâlit, faillit tomber. Il devait sembler ressentir un chatouillement de la poitrine. Il pinça les lèvres. Durant un instant, il attendit cette hémorragie comme la mort. Mais il s'était trompé. À force de penser ce qui était arrivé le matin, il s'imaginait à chaque instant qu'un nouveau flot de sang lui montait à la bouche. Chapitre 18. Un mois plus tard, par une matinée radieuse d'automne, Charles Benesto rendait le dernier soupir. En quittant Madame Charmécard, il avait pris un taxi et s'était fait conduire rue de Vanves. En passant devant la loge, il avait demandé à Madame Bichat si elle n'avait pas revu Eugénie. Il avait peur de rester seul. Il lui semblait que la présence de cette pauvre femme l'eût réconforté. Mais Madame Bichat lui avait répondu qu'elle ne fréquentait pas des gens comme Eugénie. Il avait alors prié la concierge de monter dans la soirée, car il ne se sentait pas bien. Elle avait accepté, non sans refuser de préciser l'heure, car elle n'était pas le seul qui se tourne les pouces toute la journée. Aussitôt rentré, il s'était couché. Il avait cru qu'il pourrait lire, écrire. Il avait posé des livres sur la table de nuit, ses cahiers. Mais à peine étendu, il s'était mis à transpirer, au point qu'un quart d'heure plus tard, il avait dû se relever pour changer ses draps. Madame Bichat n'était montée que le lendemain matin. Charles avait passé une très mauvaise nuit. À l'aube seulement, il s'était assoupi. « Je voudrais, Madame Bichat, avait-il dit, que vous téléphoniez à Madame Charmécard. Vous trouverez le numéro dans l'annuaire. Vous la prierez de venir me voir. Je voudrais également que vous tâchiez de retrouver Eugénie. » Mais comment voulez-vous que je retrouve une femme qui n'a pas de domicile, qui couche sous les ponts? Il faudrait vous adresser à la police. Mais si vous ne la retrouvez pas, voulez-vous demander à une de vos amies si elle accepterait d'habiter ici tant que je serai malade? Madame Charmécard était arrivée à midi. Quand elle apprit que Charles n'avait pas encore consulté un médecin, elle s'était écriée « Mais c'est de la folie !» À 4 heures, le professeur Genevrier avait sonné rue de Vanves. Après avoir longuement examiné le malade, il avait pris Madame Charmécard à part. « Il faut que M. Bélestaud parte immédiatement pour la montagne. » Puis, jetant un regard circulaire, il avait ajouté « Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Bon, je vous expliquerai cela plus tard. » avait répondu Madame Charmécard. Mais Charles n'avait pas voulu quitter son appartement. 15 jours s'écoulèrent ainsi. L'état de M. Bénestaud s'était aggravé. Un médecin de quartier, que le malade avait absolument voulu consulter, affirma qu'il n'était pas nécessaire de quitter Paris si Charles consentait à se laisser faire des pneumothorax. Il refusa. Ce fut à ce moment que, prise de peur, Madame Charmécard prévint la famille Bénestaud. Le jour même, les deux frères coururent rue de Vanves avec un médecin de leurs amis, le docteur Chimay. Comme les précédents, ce dernier fut très pessimiste. Il fallait absolument que le malade consentît à se rendre en Suisse. On manda Albert pour le persuader de faire ce voyage, mais en vain. À partir de ce jour, ce ne furent qu'allées et venues. Madame Bichat n'avait jamais été à pareille fête. Les époux serruriers ne quittaient plus l'entrée de leur maison. Il y avait toujours un curieux à une fenêtre guettant les voitures qui sans cesse s'arrêtaient rue de Vanves. Madame Chevasse elle-même avait tenté des travaux d'approche. Par Madame Bichat, elle avait fait savoir à l'infirmière qu'elle pouvait la remplacer, le cas échéant. On ne parlait plus de transporter Charles en Suisse. Son état ne l'eût plus permis. Il ne cessait de somnoler. Le petit appartement où il s'était retiré avec tant de joie, où la solitude lui avait été si douce, était devenu une sorte de lieu public. La porte n'en était plus fermée et les voisins, plusieurs fois par jour, venez voir ce qui s'y passait. Madame Chevasse avait trouvé le moyen de se faire engager par l'infirmière pour les bas travaux. Quant à Eugénie, elle s'était présentée à plusieurs reprises chez son ancien maître, mais chaque fois il s'était trouvé quelqu'un pour l'évincer. Maintenant, Charles Bénestaud était mort. Il reposait dans son cercueil. Les volets étaient fermés. Des cierges brûlaient. Il y avait des fleurs partout. Madame Chevasse, assise sur une chaise, le veillait. Il était 11 heures du matin. La porte d'entrée de l'immeuble disparaissait sous un drap en haut duquel deux initiales blanches, CB, se détachaient. Des agents se promenaient lentement dans la rue de Vanves, prêts, au signal que leur donnerait leur brigadier, à interrompre la circulation. Très loin, jusqu'à la rue du Château, des automobiles étaient rangées le long des trottoirs. Un corbillard était arrêté devant la porte. Dans le couloir étroit de l'immeuble, si étroit que deux personnes pouvaient à peine passer de front, se trouvaient déjà les tréteaux sur lesquels on allait poser le cercueil. Les époux serruriers vêtus de noir attendaient dans la rue. À eux se joignirent bientôt toutes les commères de la maison. Une demi-heure plus tard, le corbillard s'ébranlait. Deux voitures couvertes de fleurs le suivaient, puis une foule innombrable, puis les automobiles. Le temps était gris, mais pas particulièrement triste. Jamais un enterrement pareil n'avait suivi la rue de Vanves. Il y avait du monde à toutes les fenêtres. On apercevait dans le lointain les toits des autobus arrêtés. Tous les commerçants étaient à la porte de leur boutique. Immédiatement après les fleurs venaient les frères du défunt, en habit, ses confrères, les amis. L'un d'eux disait « Oh, maintenant je comprends beaucoup de choses. Charles devait avoir le pressentiment de sa mort. » Puis, tout en queue du cortège, ces petites gens au milieu desquels Charles Renesto avait vécu plus d'une année, ils étaient tous là, sauf les Sarrazini. Il y avait Madame Chevas, Madame Bichat, la jeune Léa, Madame Babillot, et même Eugénie, à qui personne ne parlait.